La reine de Séba. Je prie pour que l'Église soit rassemblée, tous ceux qui appartiennent au corps de Jésus-Christ, qu'ils s'assemblent dans un grand corps, alors aura lieu l'enlèvement. Avant de lire la parole, nous voulons encore prier. Ô Dieu fidèle, un grand silence s'est fait sur toute l'assemblée lorsque j'ai dit « nous voulons prier ». Ce soir, nous sommes tous conscients qu'il y a un Dieu dans le ciel qui connaît les secrets de nos cœurs. Comme il a été dit en ce temps-là, il est un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets. Tu connais les secrets de nos cœurs. Je te prie, ô Dieu, révèle-nous ton Fils dans la puissance de la résurrection. Pardonne toutes nos transgressions. Guéris toutes nos maladies. Ô Dieu éternel, parle-nous par ta parole. Que le Saint-Esprit saisisse chaque auditeur et pénètre dans chaque cœur afin qu'un grand réveil puisse éclater tel qu'il y en a eu dans les temps anciens. Souffle d'un rivage vers un autre rivage avant que Jésus ne vienne. Sauve les perdus, guéris les malades. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 42. C'est un texte que j'ai lu souvent et je l'ai choisi. Je me hâterai afin que nous puissions prier pour les malades. J'aimerais que chacun de vous ait ceci dans la pensée lorsque nous prions pour les malades. Croyez que chaque malade va être guéri. N'ayez pas autre chose dans votre pensée à part cela. Pensez-y. Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu si vous avez une pensée négative. Vous devez croire qu'il est ici et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Au verset 42, il est dit, « La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » C'est par les érudits, c'est par les théologiens de ce temps-là que notre Seigneur fut appelé Belzébul. Et lui traversait les villes, et ayant prêché et fait de grands miracles et des signes, comme nous l'avons vu il y a quelques soirs. Oh, quel fut son ministère en ce temps-là! Comme il était capable de discerner les pensées des cœurs par l'Esprit de Dieu! Et les gens d'Église, à cette époque, pensaient qu'ils lisaient les pensées, ou étaient un quelconque magicien. C'est ainsi qu'ils appelèrent l'Esprit de Dieu. Et Jésus leur a dit, « Si vous dites cela contre moi, je vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra et fera les mêmes choses, alors une parole contre lui, le Saint-Esprit, ne vous sera pardonnée ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » Il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, croyez aux œuvres. » Donc, quelles sont les œuvres du Père? Il l'a rendu très clair aux gens de ce temps-là, en ce qu'il pouvait tout leur dire par le discernement de l'Esprit. Il y a deux sortes. Tout d'abord, l'Église spirituelle, et une autre, l'Église charnelle. Vous ne pouvez pas séparer ces deux l'une de l'autre. Jésus a dit, « Un bon semeur sema la bonne semence, et un méchant semeur sema l'ivraie. » Alors vint la question, devons-nous arracher l'ivraie? Non, laissez croître les deux ensemble jusqu'à la moisson. Il n'existe aucune possibilité de séparer l'Église spirituelle de l'Église naturelle, mais l'Église spirituelle est l'Église élue, mise à part pour Dieu, et c'est cette dernière qui entend la parole du Seigneur. Qu'importe ce que nous pouvons voir, nous savons que les uns sont prédestinés à la vie éternelle, ainsi que le dit la Sainte Écriture. Mais d'autres, par contre, nous dit l'Écriture, sont prédestinés pour la perdition. Nous le lisons dans l'épître de Jude. Il existe des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'il puisse arriver. Oh, ils sont certes très religieux, mais l'esprit antichrist est un esprit très religieux. Ne l'oubliez pas. Vous voyez ? Bénis sont vos yeux si vous voyez et comprenez, car vous ne pouvez pas comprendre, à moins que Dieu ne vous le révèle. Car toute l'Église est bâtie sur la révélation spirituelle, sur le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Chaque fois que vous prêchez, vous avez un nombre d'auditeurs mélangés, et surtout lorsque le surnaturel a lieu, il y a le mélange parmi la foule. Du temps de Luther, il en était exactement ainsi, et l'histoire relate, et ce n'était pas un mystère, que Luther pouvait protester contre l'Église catholique, mais lui pouvait tenir tranquille sa tête. Mais à l'époque, le réveil fut suivi de fanatisme partout. Laissez-moi vous dire, Baptiste, je sais que les pentecôtistes ont beaucoup de choses insensées au milieu d'eux, beaucoup de charnels. Mais frère, au milieu d'eux est un véritable Saint-Esprit, c'est exact. Et vous, pentecôtistes, qui savez regarder vers Golgotha et ne cherchez pas la sensation, mais qui croyez la parole de Dieu, béni êtes-vous. Vous êtes comme la crème du lait. Vous avez l'Esprit et la parole. Donc, Jésus vint, et lorsqu'il fit ses œuvres, ils pensèrent que c'était quelqu'un d'autre parce qu'ils pouvaient discerner leurs pensées. À Pierre, il dit, « Ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. » Et quand Philippe eut appelé Nathanaël, Jésus lui dit qui il était. Ceci ne vint pas d'une dénomination, non. Philippe dit à Nathanaël, « Viens et vois toi-même. » Et déjà le Seigneur Jésus lui déclara, « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Il lui répondit, « Rabbi, depuis quand me connais-tu ? » Et Jésus répondit, « Avant que Philippe ne t'appela, je t'ai vu. » Alors Nathanaël répliqua, « Tu es Christ, le roi d'Israël. » Vous comprenez ? L'élu véritable a reconnu que c'était Dieu. Mais les scribes et les prêtres dirent, « Cet homme est un diseur de bonne aventure. » Et nous savons tous qu'un devin est du diable. Ils nommèrent donc l'Esprit de Dieu qui agissait ces jours-là, Belzébul. Et Jésus qui s'était révélé en ces temps-là a dit, « Les mêmes œuvres se feront de nouveau. Une parole prononcée contre cela ne sera jamais pardonnée. Voyez le temps dans lequel nous vivons. » Et aussitôt que le Seigneur Jésus parla à la femme au puits, elle lui dit ce qui était dans son cœur, elle répondit, « Nous savons que lorsque le Messie sera venu, il nous dira toutes ces choses. Mais toi, qui es-tu ? » Il répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Elle alla dans la ville, elle dit aux gens, « Venez, voyez, ne serait-ce pas le Messie ?» Les Samaritains crurent, car ils étaient un peu séparés des autres. J'aimerais dire ceci. Jésus a dit, « Ô Capernaum, tu t'es élevé jusqu'au ciel. » Parce que tu crois que tu as le meilleur de tout, les meilleurs prédicateurs, la meilleure religion. Tu t'es élevé si haut dans le ciel, mais je te le dis, tu seras baissé en enfer. Où est-elle aujourd'hui? Sur le fond de la mer morte. Voyez, chaque ville qui a reçu Jésus fut bénie, et celle qui ne le reçoit pas, la malédiction la trouve. Vous comprenez qu'il était plus qu'un prophète. Il était Dieu révélé dans la chair. Et maintenant, si nous sondons l'Écriture, j'aimerais dans les minutes qui suivent vous montrer certaines choses. Dans tous les âges, Dieu a eu son peuple, et il a opéré le surnaturel dans tous les âges. Donc, si cette génération accepte le don de Dieu, elle est bénie. Mais si elle le rejette, elle sera maudite. Cela a toujours été ainsi. Regardez la génération du temps de Jésus. Dieu leur envoya le plus grand don de ce temps-là, mais ils l'ont rejeté en disant, c'est un devin. Où sont-ils aujourd'hui? Dispersés sous les quatre vents des cieux. Ils l'ont repoussé. Or, Jésus a parlé de cela, et il a fait allusion au jour de Jonas. Il a dit, comme il en était du jour de Jonas. Les gens cherchent un signe. Et il a dit, une race adultère cherche un signe, et ils recevront un signe. Mais je voudrais que vous compreniez ceci. Croyez-vous que nous vivons dans une génération méchante et adultère? Je vous l'ai souvent répété, cette nation ne peut pas échapper à la vengeance de Dieu. Je suis américain. Beaucoup de mes proches parents sont morts à la guerre. L'Amérique est mon pays, mais je n'aime pas le péché qui s'y commet. Dieu aime l'Amérique, mais il hait son péché. Le péché est une honte pour chaque nation. Ne pensez pas que nous échapperons au jugement parce que nos ancêtres avaient la crainte de Dieu. Voyez, Israël était l'épouse de Dieu, mais eux aussi n'ont pas échappé au jugement de Dieu. De même, David, un homme selon le cœur de Dieu, a dû payer pour son péché, et nous, nous payerons pour notre péché. Si Dieu ne juge pas l'Amérique comme Dieu juste et saint, alors il a l'obligation de ressusciter Sodome et Gomorre et de s'excuser pour les avoir détruites. Nous sommes liés pour le jugement. Il n'est pas possible d'échapper. Mais essayez d'échapper à la condamnation divine en venant à Jésus-Christ. Je crois que les choses qui ont été dites de Jonas, ils cherchent un signe et ils recevront un signe, le signe de la résurrection. Car ainsi que Jonas se trouva dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi sera le Fils de l'homme au cœur de la terre. Et la résurrection fut un signe pour cette race méchante et adultère. Et vous savez que l'Écriture a une double signification. Le Seigneur Jésus leur a dit, croyez-vous que l'Écriture a une double signification? Par exemple, dans Matthieu chapitre 3, il est écrit, « De l'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Voyez le parallèle, s'il n'a pas pensé à Jacob et aussi à Jésus. Vous voyez que les prophéties ont très souvent une double signification. Nous sommes de nouveau arrivés dans une race méchante et adultère. Et ainsi qu'ils ont reçu en ce temps-là le signe de la résurrection, nous savons qu'il ne l'a pas fait de nouveau jusqu'à maintenant, à la fin des temps, pour les païens. Et cette race méchante, adultère et rejetant le Christ voit un signe, le signe de la résurrection, le dernier signe pour l'Église. Maintenant, regardez à Jonas. Beaucoup de personnes disent, Jonas était un homme méchant. Mais Jonas était un prophète du Seigneur. Il marchait dans le chemin de Dieu. Et maintenant vous dites, pourquoi a-t-il fait cela? Jonas ne fit rien qui soit contraire à la parole de Dieu. Si vous marchez humblement, quelquefois il semble que vous faites quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Mais Dieu va conduire les pas de ses justes, et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais comment pouvez-vous prendre la parole, la rompre et en faire quelque chose d'autre? Et maintenant, Jonas s'embarque pour aller à Tarsis, au lieu d'aller à Ninive. Regardez donc la chose pendant quelques minutes. Vous dites, Jonas, ce Jonas-là, je voudrais en être un. C'était un homme de Dieu, bien sûr. Et lorsqu'il voulut aller à Ninive, il n'y avait point de navire. Et il prit cet autre navire. Il était bien un peu retombé, mais alors qu'il se trouvait là sur le navire, Dieu avait déjà préparé le poisson qui devait le recevoir, puis qui descendit ensuite au fond de la mer. Peut-être savez-vous que tout poisson, lorsqu'il a pris sa capture, descend et il pose ses nageoires tout au fond et il extermine sa capture. Et voici que Dieu avait préparé pour ce poisson un prédicateur comme nourriture. Il l'a déjà avalé, il descend au fond de la mer. Je me suis souvent étonné de ce que, si Jonas, en ce temps-là, avait regardé aux symptômes, que serait-il arrivé? Beaucoup parmi vous ne sont pas guéris parce qu'ils regardent aux symptômes. Vous devez regarder aux promesses de Dieu. Voyez, Jonas se trouvait au fond de la mer. Oui, mais qu'arriva-t-il? Je pense à un homme que j'ai rencontré il y a environ 10 ans. Il vint et il me dit, « Mon fils se meurt de la diphtérie. » Je me rendis chez ce jeune homme qui se mourait, mais le docteur ne voulait pas me laisser entrer. Il me dit, « Êtes-vous marié ?» Je lui répondis que oui. Alors il me dit, « Je ne peux pas vous laisser entrer, sinon vous allez attraper cette maladie contagieuse et la propager. » Je répondis au docteur, « Laissez-moi entrer, je vous prie. » Car si je n'avais pas la foi que cet homme et moi-même serions gardés, je ne serais pas venu. Je lui posai cette question, « Êtes-vous catholique ?» Il me répondit, « Oui. » Alors je lui demandais, « Si un prêtre catholique venait, Le laisseriez-vous entrer? Il répondit, oui, mais il n'est pas marié, lui. Alors je répliquais, ceci est aussi sacré pour moi que le sont les autres choses pour vous. Laissez-moi donc entrer. Alors il me dit, bien, mais la responsabilité repose entièrement sur vous. Puis il m'habilla comme un genre de Père Noël, et il me laissa entrer auprès du jeune homme. Et ce jeune garçon était déjà sans connaissance. Je ne le sais pas, mais peut-être sa mère est ici ce soir. Je lui dis, savez-vous que votre fils est mourant? Elle me répondit alors, si mon fils est mourant, Dieu est le sauveur. Et je lui dis, prions. Puis je me suis approché de l'enfant, et j'ai prié en disant, ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre, tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Tu as aussi dit, quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Puis je dis, Seigneur, je pose mes mains sur ce jeune homme, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. Le père et la mère essuyèrent leurs larmes en se regardant et dirent, il vivra. N'est-ce pas merveilleux? Et ce jeune homme est en bonne santé encore aujourd'hui. Et la mère disait, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Il vivra. Sois remercié, Seigneur. L'infirmière regardait et dit, monsieur, ne comprenez-vous pas que les meilleurs médecins du pays ont dit que ce jeune garçon serait mort dans 5 heures au plus tard? Et elle ajouta, mais il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais regardez maintenant. Le père du jeune homme arriva, se dirigea vers l'infirmière et lui dit, vous me faites pitié, vous regardez au point de vue médical, mais ce n'est que le résultat d'une auscultation. Moi, je regarde à la promesse de Dieu. Et ce jeune homme est maintenant marié et il a plusieurs enfants. Vous voyez, tout est possible. Donc, c'est cela qui fait les choses réelles. Cela dépend de ce que vous vous regardez. Jonas est donc dans le ventre du poisson. Chaque homme dans cette situation aurait eu des symptômes. Il regardait ici, ventre de poisson. Il regardait là, ventre de poisson. Oh, pas étonnant, il a eu suffisamment de symptômes. Partout, il y avait du ventre de poisson. Il se trouvait maintenant serré dans le ventre du poisson. Peut-être se trouvait-il dans une situation plus terrible que la vôtre ce soir. Mais qu'a-t-il dit? Tout cela est un mensonge inutile, car je ne regarde pas au ventre du poisson, mais encore une fois, je regarde à ton Saint-Temple, ô Seigneur. Oui, il savait que Salomon avait consacré le Temple. Salomon, l'homme de Dieu, et il priait, ô Dieu, lorsque ton peuple se trouve en difficulté quelque part et qu'il regarde à ce Saint-Temple, alors du haut du ciel tu exauceras. Et si vous voulez appeler Jonas en rétrograde, là dans le ventre du poisson, au fond de cette mer en tempête, il n'a pas regardé à autre chose qu'à Dieu qui avait donné la promesse et au Saint-Temple. Jonas savait qu'il avait la possibilité de prendre Dieu à sa parole, même dans la condition dans laquelle il se trouvait. Prenez Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu, regardant en bas sur la terre, à sa parole. Savez-vous ce que Dieu fit? Il n'avait pas un récipient d'oxygène, et malgré cela, Dieu lui conserva la vie pendant 3 jours et 3 nuits, et le ramena au rivage. Ninive était une grande ville. Ses habitants adoraient les idoles. Leur dieu principal était le dieu de la mer, le grand poisson. Ils étaient dans les mêmes dispositions que le sont aujourd'hui les États-Unis. Ce n'est pas étonnant qu'ils se repentirent lorsqu'ils virent le poisson vomir Jonas sur la terre. Dieu sait ce que vous faites. Il a des chemins et des moyens. Ils se repentirent après que Jonas leur eut prêché. Pourquoi? Parce que le poisson était leur dieu, et que ce poisson ramena Jonas au rivage, et ils se repentirent. Dieu accomplit ces choses de manière surnaturelle, bien sûr. Jésus l'a dit, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le sera le Fils de l'homme. Or il est écrit, « cette race méchante et adultère cherche un signe. Si Jésus est mort encore aujourd'hui, alors il n'était qu'un homme. Mais s'il est ressuscité et qu'il vit, il est plus qu'un homme. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il est le même, il agira de même. La même puissance, les mêmes miracles, la même parole. Il est le même Dieu. Et ce dernier âge le voit. Comme la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle va des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Dieu donna un don à Salomon, le don de discerner, et tout Israël se rassemblait autour de ce don. Oh, c'était merveilleux! Tout lecteur de la Bible sait que c'était le don et le temps le plus grand qu'Israël ait eu. Au temps de Salomon, il n'y eut point de guerre, car ils étaient unanimes avec Dieu. Et savez-vous? La plus grande sécurité est le meilleur abri. Nous savons que des bombes sont construites, des bombes atomiques, etc. Et ce que nous avons besoin de nos jours, c'est d'un homme de Dieu qui puisse ramener à Dieu l'Amérique. Ce sera la plus grande chose qui pourra avoir lieu dans notre temps. Beaucoup d'Américains se disent chrétiens et ils n'ont jamais expérimenté Christ. Puisse Dieu l'accorder, c'est la plus grande chose qui pourrait nous arriver. Car c'est en Christ que se trouve notre abri, notre sécurité. Ce grand don au temps de Salomon, c'est pour cela que tous se rassemblèrent. Et la gloire de ces choses s'étendait sur toute la terre. Et tous ceux qui passaient entendirent parler de ce grand don, et tous crurent. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux si ce soir, toutes les personnes qui appartiennent à l'Église voulaient croire que Dieu a envoyé le plus grand don, le Saint-Esprit qui agit dans ce temps. Vous, Nazaréens, gens de la Pentecôte, ou qui que vous soyez, si vous brisiez vos clôtures et que l'Église entière du Dieu vivant puisse se rassembler, une puissance serait manifestée dans cette nation. Et il y aurait un réveil qui s'étendrait d'une côte à l'autre côte. Mais chacun a ses propres statuts. Oh, si nous pouvions être unanimes comme au temps de Salomon. Partout l'on parlait de cela, aussi loin que le monde connu d'alors s'étendait. Or, cette reine était païenne. Mais savez-vous, Dieu sauve tous ceux qui veulent être sauvés. Remarquez maintenant, chaque fois que quelqu'un passait, la reine entendait de nouveau parler des choses que Dieu avait faites. Les gens étaient convaincus. Elle disait peut-être que quelque chose de semblable ne s'était encore jamais vu dans le monde entier, que leur Dieu est un Dieu vivant et qu'il a donné à un homme du nom de Salomon une force particulière qui ne peut venir que de Dieu. Vous savez que la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. Et ceci a provoqué la faim chez cette reine qui a pris la décision d'aller elle-même sur place. Ceci est mieux que de rester chez soi et de critiquer. Voyez, quelquefois l'on dit, « Oh, notre Église ne prend pas part à cela. » Mais cette reine a dit, « J'irai moi-même pour en être persuadée. » Premièrement, c'était une femme. Deuxièmement, elle était païenne. Et si elle voulait aller, elle avait besoin du consentement de ses prêtres. Elle a certainement dit, « J'ai entendu parler des choses qui se passent là-bas. » Puis elle aura ajouté, « Là, il y a un grand Dieu, et il a donné un grand don à un homme du nom de Salomon. » Et le prêtre aura sûrement répondu, « mais ce n'est pourtant pas dans notre réunion que nous pouvons entendre ces choses, alors nous ne pouvons pas tolérer cela. » Et savez-vous, reine, quelque chose de pareil n'existe pas. S'il existait quelque chose de surnaturel, notre diacre et tous les autres, et, etc., selon leur titre, ils feraient cela parmi nous. Ce ne sont que des idées. Non, a dit la reine, je veux aller personnellement pour être convaincu de la chose. Voyez, l'évêque ou l'archevêque lui aura dit, reine, écoutez, souvenez-vous que si vous allez avec un tel fanatisme, vous serez excommunié et vous ne recevrez plus le dernier droit. Car voyez-vous, votre mère, votre grand-mère, tous sont ensevelis ici et sont des nôtres. Pourquoi voulez-vous vous en aller? Mais la reine aura répondu, peu importe ce qui arrivera, Dans mon cœur, il y a un grand désir. Je veux m'y rendre personnellement et être persuadé moi-même. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Voyez, elle a dit, j'irai. Et l'homme lui aura dit, écoutez, si vous êtes curieuse, laissez-nous encore une fois discuter de la chose ici, dans notre église, et nous en donnerons l'éclaircissement. Et peut-être que la reine leur a donné cette réponse, il y a déjà 40 ans que je viens auprès de vous, et je n'ai rien vu de Dieu, tout n'est que des formes mortes. Ô Dieu, aide-nous, nous avons besoin de davantage de reines comme celle-ci. Ce qu'elle a vu jusque-là n'était que des livres de prières et des paroles sur Dieu. Mais où est-il? Vit-il? Je n'ai pas encore vu un mouvement de sa part, rien de ce qu'il a fait. Mon père, mon grand-père, personne n'a vu quoi que ce soit. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quel bien cela ferait-il de nourrir vos oiseaux dans la cage alors qu'ils ont des ailes puissantes et qu'on ne les laisse pas sortir de leur cage? Ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance de Dieu. À quoi cela sert-il de prêcher le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même Dieu ce soir? À quoi cela sert-il de prêcher un Dieu qui a guéri, qui a fait des miracles et qui ne serait plus le même Christ aujourd'hui? La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si c'est la vérité, Dieu est obligé de confirmer sa parole. À une époque où existent des thèses et des dogmes, il confirme sa parole au milieu de son peuple. Or, des livres, tous peuvent en produire, Bouddha, Mahomet et tous les autres. Mais frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Christ a vécu, il est mort, il est ressuscité et il est encore le même aujourd'hui et il habite au milieu de nous. Et il dit, toutes les promesses de Dieu sont pour vous. Vous pensez peut-être que je suis un exalté, mais je ne le suis pas. Je sais qu'il est réalité. Ce n'est pas uniquement dans mon cœur, mais certainement ce frère-là peut aussi le dire, et d'autres aussi. Jésus fait aujourd'hui ce qu'il a fait lorsqu'il cheminait sur la terre. Il est le Dieu vivant. Et la reine a pu leur dire, vous pouvez effacer mon nom du livre, parce que je suis fatigué de toutes ces thèses mortes. Je veux aller afin de voir moi-même. Elle chargea les chameaux avec de l'or, des pierres précieuses, de l'aromate. Elle pensa en elle-même, si c'est exact, je vais les aider. Et si ce n'est pas juste, je reprends tout avec moi. Voyez-vous? Oh, si nous étions plus sincères avec notre aide pour soutenir les choses qui sont de Dieu, plutôt que de soutenir les choses qui ne sont pas de lui. Souvent le baromètre spirituel est très loin, en dessous de zéro. Quel en est le motif? Si Christ est au milieu de nous, il fait les mêmes choses. De nos jours, c'est comme si l'on fardait et embaumait des morts et que l'on demande, y a-t-il des guérisons divines? Non. Y a-t-il des baptêmes du Saint-Esprit? Non. Tout est rejeté. C'est une tromperie de l'enfer dans laquelle ils sont tombés, car Jésus-Christ est le même, aujourd'hui, hier et pour toujours. Vous ne pouvez pas limiter Dieu avec vos thèses. Non. Comme Josué, il eut la foi que les murs de Jéricho tomberaient. Et si quelqu'un n'a pas la foi, qu'il ne se tienne pas dans le chemin de celui qui a la foi et que Dieu va employer. Que Dieu soit remercié de ce qu'il confirme sa parole. Or, cette reine fit bien des rencontres. Elle ne fit pas le voyage dans une voiture climatisée, mais à dos de chameau. Et ce ne fut pas un voyage d'une heure, mais de 3 mois. Bien des personnes ne veulent même pas traverser la rue pour entendre la parole. Que ferez-vous au jour du jugement? Quelle sera votre réponse? Elle voyagea à dos de chameau, et non pas par de belles routes, mais à travers le désert, afin de participer à un don et entendre un homme de Dieu. Et nous, depuis bientôt 2000 ans, nous avons l'enseignement biblique, et nous voyons que le Saint-Esprit fait les mêmes œuvres. Et que ferez-vous? Vous avez vos voitures climatisées et vous ne venez pas. Vous écoutez Arthur Gottfried ou J'aime Suzy ou quelque chose de semblable. Voyez, vous ne voulez plus de l'Évangile. Vous aimez les distractions. Et parfois, vous choisissez votre prédicateur, peut-être des lâches, qui ont davantage le style d'Hollywood qu'autre chose. Et l'on ne parle plus que de parties qui auront lieu et d'argent afin de pouvoir payer le prédicateur. Tout cela ne sont que des thèses humaines. Et le dimanche matin, après 10 minutes de culte, pendant la prédication, qu'arrive-t-il? Les gens s'endorment. Et si quelqu'un prêche qui ne leur plaît pas, il vaut sa sortie. Ce dont nous avons besoin, c'est d'hommes de Dieu se tenant là, remplis du Saint-Esprit, apportant le message de Dieu. Cette reine, elle était affamée. Elle vint, elle écouta. Peu lui importait ce qui pouvait lui arriver. Et en ce temps-là, les fils d'Ismaël étaient dans le désert. C'étaient des voleurs. Beaucoup de caravanes et de chameaux étaient pillés. Elle avait peut-être des gens avec elle, mais la bande des voleurs était plus nombreuse. Mais lorsqu'une personne se met en route pour rechercher la volonté de Dieu, Dieu la garde. Aucun évêque, aucune thèse, aucune horde, rien ne pourra être sur le chemin, car Dieu vous prépare la voie. Et vous pourrez venir pour entendre. S'il y a un Dieu vivant, il veille sur son peuple. Elle se mit donc en route. Voyez, 3 mois à traverser le désert. Un désert brûlant à dos de chameau. Mais Dieu a pris soin d'elle, afin qu'elle arrive en bonne santé. Il fera la même chose avec vous. Le même Dieu vit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La reine arriva à la porte. Elle n'a pas demandé « Où est le pasteur Salomon ?»« L'évêque tel et tel m'a envoyé. » Non. Elle s'est tout d'abord reposée. Elle n'a pas dit « J'écouterai seulement une minute, et s'il dit quelque chose qui ne correspond pas à mes idées, je reprends mon chemin. » Non, je vous dis, prenez votre Bible, lisez, comparez, sondez l'Écriture. Vous verrez que la reine n'est pas venue pour ne rester qu'un seul soir. Quelquefois, les gens disent « Si ce soir il ne prie pas pour moi, je ne reviendrai plus jamais. » La reine a d'abord fait halte. Elle s'est déchargée. Elle a tout fait pour rester là. Elle voulait demeurer là jusqu'à ce qu'elle soit persuadée. Oh, si les hommes et les femmes en Amérique voulaient rester jusqu'à ce qu'ils soient persuadés et qu'ils aient sondé les Écritures. Voyez-vous, le Dieu de Salomon est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ne critiquez pas, soyez sincères, sondez dans l'Écriture, et en ce jour-là, vous serez sur la voie juste. Ceux qui critiquent ne subsisteront pas. Prenez garde où ils vont se trouver au jour du jugement. Voyez, Dieu prend soin afin que les gens puissent le comprendre. Mais il n'oblige et force personne à prendre ce qui est de lui. Les prédicateurs peuvent le faire, mais lui ne le fait pas. Maintenant, je peux voir qu'elle s'habille, elle entre par la porte, une grande assemblée est réunie. Et là, la pensée des cœurs est révélée. Le Dieu du ciel qui peut faire cela. Elle se dit, notre Dieu ne peut pas faire cela. Nous n'avons que des livres avec des thèses, des monuments. Tandis qu'ici se trouve un serviteur du Dieu vivant qui peut révéler quelque chose. Elle entre là, tout près, et le pasteur Salomon entre. Il parle du glorieux Jéhovah. Un cas précis se présente, et déjà la puissance de discernement est ici, et la vérité est mise en lumière. Oh, cette païenne, elle est déjà convaincue avec le premier cas. Elle savait que Salomon n'était qu'un homme, mais que dans cet homme se trouvait un don de Dieu, quelque chose de surnaturel. Le deuxième jour, elle observa ce qui se passait, elle pensa, « Bientôt ce sera aussi mon tour. » Maintenant c'est son tour, et la Bible nous dit que Salomon lui révéla tout ce qui était dans son cœur. Et qu'arriva-t-il? Elle alla au milieu du peuple et elle dit, « Tout ce que j'ai entendu, c'est la vérité. » Et j'ai expérimenté encore davantage. Puis elle prit position publiquement. Elle retourna dans sa maison avec Dieu dans son cœur. Le Dieu qui fait le surnaturel et qui a révélé les secrets de son cœur. Voyez-vous, elle se lèvera au jour du jugement avec tous ceux qui auront été justifiés. Mais que feront tous ceux qui ont appelé Jésus Belzébul est du diable. Que va-t-elle faire, cette présente génération? Elle la condamnera. Que disait-elle? Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et peuvent voir ce que Dieu fait. Voyez, bénis sont tes serviteurs qui sont autour de toi et qui ont le privilège de vivre les choses que Dieu fait. Jésus a dit, elle se lèvera au jour du jugement, elle condamnera cette génération. Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est encore le Dieu vivant. Courbez vos têtes pendant un instant. Avant que vous ne voyiez un signe surnaturel, avant que Jésus ne vienne pour se révéler après la prédication de la parole, combien parmi vous désirent lever leurs mains et dire, « Seigneur, je me place de ton côté. Maintenant je viens et je prends hardiment position devant toi. » Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Oh, regardez toutes ces mains, 30 à 50 mains. Ici, vous prenez hardiment position devant le Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être vous a-t-on parlé de ces réunions et des grands signes qu'accomplit ici le Seigneur. En ce temps-là, ils vécurent cela à la fin de leur voyage. Le Seigneur l'a promis, vous le verrez s'accomplir. Vous croyez et vous prenez position ce soir. Levez vos mains où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Vous sur les gradins à droite et à gauche, que Dieu vous bénisse. Soyez sincères, voyez-vous, ce pourrait être votre dernière occasion. Avant le lever du jour, en contrôlant votre pouls, on peut déclarer que vous êtes mort. Vous sentez peut-être comme ça devient froid, on contrôle votre pouls, vous êtes sur l'oreiller de la mort. Oh, comme j'aimerais être encore une fois dans une réunion semblable pour entendre la parole de Dieu. Or vous dites, quelle différence cela fait-il? Dieu voit toutes ses mains. Prenez position. Cela prouve que vous avez un désir, que vous invoquez Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Comme a dit David, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Tout ce qui est en moi, j'agis comme la reine du midi, je prends position. Y a-t-il encore quelques personnes qui désirent être rappelées dans la prière? C'est bien, sœur. Dieu vous bénisse, chère sœur. Vous êtes maintenant dans ce temps? Oui, Dieu vous voit. Vous prenez hardiment position pour Jésus. Dieu vous bénisse, aussi vous qui êtes là derrière. Il vous voit, votre nom est dans le livre. Il n'y a aucune puissance de l'enfer pour l'effacer. Il est écrit par le sang de l'agneau. Celui qui entend ma parole et reçoit celui qui m'a envoyé est passé de la mort à la vie. Ayez foi en Dieu. Vous qui avez levé vos mains, j'aimerais que vous vous avanciez pour prier après le service de guérison. Si vous le croyez vraiment, je vous assure sur la base de la promesse de Dieu que votre nom est écrit dans le livre de vie. Car celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qu'est-ce que cette vie? Le Saint-Esprit. Vous ne devez pas aller à la perdition, mais vous êtes passé de la mort à la vie. Père, il s'est passé une chose ici. Beaucoup ont levé leurs mains et t'ont reçu comme sauveur. Bénis-les, Père. Ils sont les trophées de ce message. Reçois-les. 200 à 300 personnes ont levé leurs mains. Ô Dieu, bénis-les. Puissent-ils avoir la vie éternelle. Remplis-les du Saint-Esprit. Tu as dit toi-même, nul ne peut venir à moi, à moins que mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et tous ceux qui viennent, je ne les mettrai pas dehors. Tu les as reçus comme don d'amour du Père. Je te prie, Père, maintiens-les dans ta grâce, chacun en particulier. Qu'importe ce qu'ils ont fait autrefois, ils peuvent être très sincères, s'habiller décemment, mais s'ils ne te possèdent pas, ils sont perdus. Nous ne possédons rien que nous puissions apporter afin de mériter quoi que ce soit. Non, mais cette transformation de vie ne peut venir que par toi. Bénis-les, Seigneur, et garde-les, Père. Et si je n'ai pas la possibilité de leur serrer la main ici, donne-moi le privilège de le faire là-bas, lorsque nous nous rencontrerons de l'autre côté de la grande rivière. Je te prie dans le nom de Jésus. Je voudrais maintenant demander quelque chose. Et si vous allez chez un médecin et que vous lui dites, « Docteur, j'ai de continuels maux de tête » et qu'il vous donne une pastille d'aspirine en vous renvoyant à la maison, c'est alors qu'il voulait se débarrasser de vous. Un véritable docteur va d'abord vous ausculter pour connaître la cause de votre mal de tête. Est-ce exact? Voyez, c'est pourquoi je suis si lent. Et maintenant, si Dieu avait posé une malédiction sur quelqu'un et que je l'enlève, voyez-vous, savez-vous que vous pouvez vous mettre en difficulté avec vos dons? C'est pourquoi il y a des personnes ayant le don de la prophétie qui sont étranges et particulières. Constatez que Dieu parla à Moïse et lui dit, « Va, parle au rocher !» Il ne devait plus le frapper, mais il l'a quand même fait. Il a donc brisé la parole du Seigneur, que ce soit la volonté de Dieu ou pas. Donc Christ aurait dû être frappé deux fois. L'eau est venue quand même, mais Dieu a eu affaire avec Moïse. Vous savez qu'Élisée était un jeune homme quand il devint chauve. Il monta sur la montagne, mais ils ne crurent pas qu'il y était allé. Et les enfants lui crièrent, « Chauve, chauve, pourquoi n'es-tu pas monté ?» Et le prophète Élisée s'étant retourné, maudit les enfants dans le nom du Seigneur. Avant qu'ils n'arrivent chez eux, deux ours tuèrent 42 des enfants. Or, vous savez que ce n'est pas la nature du Saint-Esprit. C'était un prophète qui était fâché. Vous devez prendre garde à ce que vous faites. Pentecôtiste, laissez-moi vous dire ceci dans l'amour. C'est la raison pour laquelle vous ne progressez pas. Et vous aussi les baptistes, vous tous qui avez des dons. Dieu a donné la puissance à l'Église. Il ne l'a jamais reprise. Je vais vous montrer où il l'a donnée, et vous, vous me montrerez où il l'a reprise. Il vous a donné la puissance. Mais vous tous, vous qui parlez en langue, vous les utilisez avec désordre. L'un fait ceci, l'autre fait cela, c'est comme une nouvelle Babylone. Mettez donc toutes ces choses à leur place. Les dons, l'enseignement, les apôtres, tout à sa place. Puis agissez avec recueillement et ordre. Et vous allez voir que Dieu est un Dieu d'ordre. Voyez-vous, les gens vous craignent parce que vous vous conduisez ainsi avec ce que Dieu vous a donné. Voyez, Dieu a du respect dans l'emploi de ses dons. Et s'ils ne sont pas de Dieu, mettez-les de côté. De toute manière, vous ne les voulez pas. Pourquoi accepteriez-vous l'imitation alors que Dieu a du véritable en suffisance? Savez-vous que j'aimerais dresser la tente ici parmi vous, braves gens, afin de donner l'enseignement, surtout pour les prédicateurs? Je crois que le Seigneur nous aiderait à le faire, mais peut-être que je n'aurais pas dû dire toutes ces choses. Mais maintenant, dans notre assemblée, lorsque quelqu'un parle en langue et que quelqu'un ait un don, voyez, s'il n'y a pas d'interprète, il ne devrait pas parler dans l'Église. Et en ce temps-là, ceux qui avaient les dons se réunissaient des heures avant la réunion. Et si quelqu'un parlait en langue, ils attendaient, voyez. On ne peut pas répéter la parole, non, il ne faut pas employer des répétitions, comme le font les païens. Non, la parole est déjà écrite. Et avant que la prophétie puisse être acceptée, deux ou trois au moins devaient témoigner que c'est bien de Dieu. Cela était écrit ainsi que le nom de ceux qui ont le don de discernement. Et demain après-midi à 2 heures, il y aura un accident de chemin de fer. Monsieur Jones doit sortir de sa maison. Voyez, l'esprit de prophétie est venu sur cet homme. Pas là où les pécheurs se rassemblent avec les croyants pour entendre la parole, non. Mais là où les dons sont en activité, il y a une grande différence entre le don de prophétie et un prophète. Le don de prophétie peut être aujourd'hui sur quelqu'un et demain sur quelqu'un d'autre. Ce sont les 9 dons de l'Esprit dans l'Église. Tandis qu'un prophète est né comme prophète, Oui, un prophète est né en qualité de prophète pour toute sa vie. Ainsi dit le Seigneur. Un don de prophétie doit être jugé. Mais vous n'avez jamais vu que quelqu'un ait le droit de se tenir devant Jérémie ou Ésaïe et de les juger. Et maintenant, voyons ceux qui ont le don de discernement. Il est dit, ce soir une femme va venir. Elle aura une écharpe verte. Elle vient de l'Ohio. Et frère Branham doit lui imposer les mains. Mais avant de le faire, il doit lui dire qu'elle était trésorière dans une assemblée là-bas où elle a dérobé de l'argent, raison pour laquelle elle est paralysée. Alors, celui qui a le don de discernement dit, oui, c'est juste. L'autre dit, c'est juste. Alors, il me fut donné une telle prophétie, et je l'ai lue devant tout le monde, ainsi aussi avec le nom des hommes qui possédaient le don de discernement. Et il n'y avait plus d'issue possible. Et alors le soir, la femme arriva dans la chaise roulante. Elle portait l'écharpe verte. Toute l'assemblée s'attendait à ce qu'elle vienne. Je lui ai dit, madame, vous étiez trésorière et vous avez volé de l'argent. Elle me dit, c'est exact, frère Branham, je vais mettre cela en ordre. Je lui ai dit, mettez-vous debout sur vos pieds, Jésus-Christ vous a guéri. Vous voyez? Et je dis, c'est exactement comme avec le frère Jones, cela est arrivé. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Mais si la chose n'arrive pas, c'est qu'alors un esprit méchant est au milieu de vous. N'ayez pas de répit jusqu'à ce que vous ayez éloigné la chose par la prière, car vous ne voulez pas cet esprit-là sur vous. Vous ne voulez certainement pas de fausses espérances, mais le véritable Saint-Esprit ou rien du tout. Voyez? Et si vous amenez votre assemblée à cet ordre, alors regardez où elle s'élèvera. C'est ainsi que cela se faisait selon l'Écriture. Mais qu'un se lève et parle en langue, qu'un autre fasse l'appel à l'autel, qu'un autre fasse encore autre chose, cela c'est Babylone. Vous avez quelque chose de véritable, et le monde a faim de cela, mais pas de la manière dont vous le donnez. Voyez, ils désirent chercher Dieu. Moi-même j'étais baptiste, j'ai parlé avec des douzaines de baptistes de presbytériens, ils veulent Dieu. Mais comment le leur présentez-vous? Revenez à la Bible, agissez comme Dieu l'a dit, alors le monde entier aura faim de cela. Amen. Ne soyez pas fâchés contre moi. Je suis votre frère et je vous aime. Ceci est la parole du Seigneur. Agissez d'après elle et regardez ce qui se passe. Vous voyez, il n'y a pas de sortie possible. Dieu est présent pour confirmer.
Et maintenant, où sont les hommes? Quel quart de prière avez-vous distribué? Où avons-nous commencé? Nous commencerons ailleurs ce soir. Carte de prière 1. Laissez-nous commencer par le 50. Qui a un 50? Êtes-vous sûr d'en avoir distribué 100? Je regrette, mais ce soir, nous commencerons ailleurs. La carte de prière 1 50. 1,51, levez votre main. 1,51, où êtes-vous? Quart de prière, 1,51. Je vous prie de regarder ici vers ces deux personnes assises là. C'est peut-être quelqu'un de sourd qui ne peut pas m'entendre. Regardez la carte de votre voisin. En ce temps-là, Jésus a dit, « Qui m'a touché? » Avez-vous lu ce récit? Et Pierre lui répondit, « Ne dis pas qui m'a touché, car tout le monde te presse. » Mais Jésus déclara, « J'ai senti qu'une force est sortie de moi. » Il devint faible. Combien savent qu'il s'agit d'une force, d'une vertu, de la puissance? Jésus sentit qu'une force était sortie de lui. Il regarda autour de lui et il vit la femme et lui dit ce qu'elle avait et qu'elle était guérie. Sa foi l'a guérie. Et voici que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Vous voyez, ce n'est pas seulement au temps de Salomon, mais aussi maintenant même. Il est assis à la droite de Dieu pour nous entendre et nous exaucer. Un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de notre faiblesse. Frère, Cela se trouve-t-il dans l'Épître aux Hébreux?
Oui.
S'il est le même souverain sacrificateur, il devra agir de la même manière, comme il agirait s'il était touché lui-même, et il dirait la même chose. Si vous ne circuliez pas, mais demeuriez assis et recueillis à vos places, regardant à Dieu, et si vous disiez, Seigneur, j'ai lu la Bible, et depuis lundi soir, j'ai tout sondé et j'ai constaté que c'est la stricte vérité. Combien savent que c'est la vérité? Jésus a promis qu'il déverserait à nouveau le Saint-Esprit dans cet âge, et le prophète a dit qu'à l'heure du soir, la lumière paraîtrait. Comme nous avons traversé cet état, de même Jésus l'a fait à la fin du temps des Juifs, et il passa en ce temps-là à côté des païens. Mais maintenant, nous attendons sa venue. Alors, si Dieu est invoqué afin qu'il se révèle et agisse comme en ce temps-là, lorsqu'il prit pour la première fois sa décision, s'il agit maintenant, il doit le faire de la même manière qu'en ce temps-là. Sans cela, il n'aurait pas agi justement. Et maintenant, à la fin du temps des païens, si Dieu nous laisse entrer dans sa gloire, seulement sur la base de nos statuts et des dénominations, alors que les Juifs, les Israélites n'ont pas pu entrer ainsi, mais qu'ils devaient recevoir le signe, ce signe qu'ils appelaient un diseur de bonne aventure et un devin. Comment pourrons-nous entrer sans ce signe? Dieu serait injuste s'il agissait avec les uns d'une manière et avec les autres d'une autre manière. Il ne peut pas le faire. Il doit être Dieu et il doit agir de la même manière. Or, s'il le fait, combien vont l'aimer et l'accepter? C'est en ordre. L'Esprit de Dieu repose sur moi, sur son humble serviteur, pour servir dans le nom de son Fils, Jésus-Christ. L'ange du Seigneur, que vous voyez sur l'image, est en ce moment même ici sur l'estrade. Ainsi dit le Seigneur. Je prends l'Esprit de toute personne sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Agissez comme il vous est dit d'agir et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez recueillis. Cet homme, est-ce lui? Aussi loin que je puisse voir, il n'y a personne ici que je connaisse à part le docteur Vell. Vous m'êtes tous étrangers. Regardez à Christ et découvrez si l'ange du Seigneur, cette colonne de feu, est le même esprit qui était sur Christ. Alors il fera naître la même vie. Si ce n'est pas la même vie, il ne fera rien naître. Chaque arbre est reconnu à son fruit. Le monde scientifique le sait aussi et l'Église le sait. Qu'allez-vous faire avec cela? Dans la Bible se trouve un homme du nom de Philippe. Il alla trouver son ami Nathanaël et il le conduisit à la réunion. Ce fut la première fois que Jésus rencontra Nathanaël et il lui dit, tu es un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, « Depuis quand me connais-tu, Rabbi ?» Jésus lui dit, « Où il se trouvait avant de venir à la réunion. « Pourriez-vous faire cela, jeune homme ? Je ne vous connais pas. Sommes-nous des étrangers l'un pour l'autre ? Ce matin, vous m'avez salué lorsque nous sommes allés prendre le petit déjeuner. C'est la seule fois où nous nous sommes vus. » Seulement cette salutation ce matin. Je sais seulement que vous êtes un jeune homme. Je ne vous ai rien demandé. Est-ce exact? Et vous ne m'avez rien dit. Est-ce aussi exact? Merci bien. Si le Seigneur me révèle pourquoi vous êtes ici, je pourrais vous dire, êtes-vous malade et vous imposer les mains. Mais si le Seigneur révèle quelque chose de votre vie que je ne connais pas, cela ne peut être qu'un miracle. Vous savez qu'un miracle ne peut être expliqué. Ce serait un plus grand miracle que de voir celui-ci, mon frère, se lever de la chaise roulante et marcher. Un plus grand miracle. Et maintenant, s'il fait ce plus grand miracle, par quoi cela se fait-il? Voyez-vous où vous en êtes, vous chrétiens? Et quelqu'un veut-il venir et prendre ma place maintenant? Vous êtes le bienvenu pour faire cela. Vous pouvez vous charger de la ligne de prière maintenant. Mais, vous tous dans la ligne de prière qui ne me connaissez pas, levez votre main. Merci. Voyez, chacun d'eux, tous ceux qui me sont inconnus dans l'assemblée maintenant, levez votre main.
Vous voyez, il y en a tant qu'il n'existe pas de sortie. C'est Dieu ou alors j'ai menti. Mais si vous vous mettez au service de Dieu, lui le fera envers vous, si vous êtes appelé à faire cela. Et maintenant, je suis ici, mes mains vers Dieu. Nous ne croyons pas au serment, mais nous avons tous les deux levé nos mains afin de vous faire savoir que nous n'avons jamais été ensemble dans notre vie. Nous ne nous sommes que salués ce matin. Si Dieu le Seigneur me révèle pourquoi vous êtes ici, si vous êtes malade, je ne le sais pas. Mais si Dieu le Seigneur me disait pourquoi vous êtes ici, comme à la femme au puits, allez-vous croire qu'il vous aime et vous donne ce pourquoi vous l'avez prié? Le reste de l'assemblée va-t-il le croire? Si vous voyez ici la parole de Dieu ouverte et que nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant, ce matin nous nous sommes salués en disant « Comment allez-vous? Comment allez-vous? » Voilà, c'est ainsi. Alors Dieu doit parler, ou bien je suis un menteur. Et s'il ne parle pas, sa parole est fausse, car il a promis, il m'a promis de le faire. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous qui n'avez pas de quart de prière, priez aussi et dites, Seigneur, laisse-le se tourner vers moi. Peut-être que je suis encore sceptique, mais que je ne lui dise pas qu'il ne me connaît pas. Voyez maintenant s'il va le faire. J'ai déjà dit que je ne vous avais jamais rencontré auparavant. Nous sommes nés à des années et à des milles de distance. C'est la première fois que nous avons un entretien. Mais le Dieu des cieux, qui vous a nourri votre vie durant, s'il me dit quelle est votre difficulté, me croirez-vous être son serviteur? L'assemblée entend-elle encore ma voix? Ce jeune homme se trouve éloigné de quelques pieds seulement. Entre moi et lui se tient la lumière. Ce jeune homme sait que quelque chose va se passer. Il n'est pas ici pour lui-même. Je vois un enfant, une petite fille. Elle est frappée de paralysie infantile. Dieu vous bénisse, fils. Puisse Dieu le Seigneur vous donner ce pourquoi vous l'avez prié. Amen. Que Dieu soit avec vous, fils. Croyez-vous? Qu'est-ce que c'est? La reine du Midi vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voyez, je ne suis pas seul ici. Un plus grand que moi est ici. Le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur Christ et il agit maintenant dans l'Église. Et si le jeune homme n'avait pas cru, cela ne serait jamais arrivé. Cette femme ici, je ne la connais pas, je ne vous connais pas, madame. Je ne vous ai jamais vue dans ma vie. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Si c'est bien exact, levez alors votre main. Prenez comme exemple Jean 4. Si Jésus est vivant encore aujourd'hui et s'il est ressuscité des morts, une femme et un homme se rencontrèrent pour la première fois dans leur vie. Une Samaritaine est Jésus du peuple juif. La femme vint pour puiser de l'eau et Jésus la pria de lui donner à boire. Il parla avec elle jusqu'à ce qu'il trouve sa difficulté et il le lui dit. Combien ont-ils lu ce récit? Jésus lui dit, va chercher ton mari. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. La femme lui dit, Seigneur, elle ne l'a pas appelé diable, ni devin, comme les prédicateurs en ce temps-là. Elle lui dit, Seigneur, je discerne que tu es un prophète. Bien qu'elle fût une prostituée, elle en savait davantage sur Dieu que les prédicateurs. Elle dit, je reconnais que tu es un prophète. Nous savons que quand le Messie vient, c'est là le signe du Messie. Le Messie nous annoncera toutes choses. Si la Bible atteste cela, dites Amen. Or, si en ce temps-là, ce fut le signe du Messie, s'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant, c'est le même signe du Messie aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a ici une femme. Nous n'avons pas le même âge. Et nous nous voyons pour la première fois. Je ne connais rien d'elle. Et si Dieu me révèle le secret de votre cœur,
vous jugerez par quelle puissance cela arrive. Si vous dites que cela vient du diable, c'est le diable qui va vous rétribuer. Si vous dites que cela vient de Dieu, alors c'est Dieu qui va vous récompenser. Je ne suis qu'un homme. L'assemblée entend-elle ma voix? Car c'est comme si cette femme maintenant s'éloigne de moi. Elle est très consciente que quelque chose arrive. Elle souffre de ses pieds. Elle a mal aux pieds. Si cela est juste, levez votre main. Comment pourrais-je le savoir? Dites-vous que j'ai deviné? Laissez-moi vous montrer que c'est Dieu qui l'accorde. Soyez recueillis. C'est une bonne personne. Laissez-moi parler un peu plus longuement avec elle, même si nous devons pour cela raccourcir la ligne de prière. Je ne sais même pas ce qui a été dit maintenant, mais ce qui a été dit et prononcé, c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est quelqu'un d'autre qui a parlé au travers de moi. Je suis juste comme un microphone. Si rien ne parle à travers moi, je ne peux rien dire par moi-même. Je ne sais rien de vous et je ne peux rien dire, voyez-vous? Croyez-vous que c'était Dieu? Vous le faites, merci. Vous verrez des choses plus grandes, dit Jésus à Nathanaël. Oui, je vois cette femme revenir. Ce sont ses pieds. Ils sont en mauvais état. Elle a subi une, deux, trois opérations aux pieds, c'est exact. Et afin que vous sachiez, vous êtes infirmière, c'est juste. Vous devez vous tenir sur vos pieds, c'est vrai. Me croyez-vous, le prophète de Dieu? Vous allez aussi dans une assemblée. Vous allez à l'église baptiste. Ainsi parle le Seigneur. Si c'est juste, levez votre main. Allez à la maison et demeurez en santé. Votre foi vous a guéri. Croyez-vous? Ayez juste la foi en Dieu. Bien. Et je suppose que nous aussi nous sommes étrangers l'un pour l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Si Dieu le Seigneur... juste un moment, s'il vous plaît. Quelque chose vient d'arriver. J'ai vu une ombre obscure qui passe à travers l'esprit. Et ce n'est pas cette femme ici. Quelqu'un l'a touché là-bas dans le coin. Épilepsie. Femme, vous avez de l'épilepsie. C'était cette ombre obscure. Ne vous faites point de soucis. Croyez-vous Dieu de tout votre cœur? Ces crises vont vous abandonner. Ayez foi en Dieu. Madame, j'aimerais voir si vous avez une carte de prière. Non, vous n'en avez point. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Et vous n'avez pas de carte de prière, mais votre foi. Qu'avez-vous touché? Votre foi a touché le souverain sacrificateur. Le diable a été irrité, ceci eut lieu. Et si cela revient, résistez-lui, car vous êtes guéri. Vous, femme, croyez-vous que je sois son serviteur? Si Dieu me révèle pourquoi vous êtes ici, allez-vous croire de tout votre cœur? Vous souffrez. Je vois quelque chose autour de votre bras. Le médecin contrôle votre tension artérielle. Vous avez trop de pression, est-ce exact? Je vous vois dans une salle de consultation. Le médecin vous fait une saignée et il vous dit, vous avez trop de tension pour votre âge. C'est un homme sérieux. Vous savez que je ne peux pas le savoir, je n'étais pas là avec vous, mais juste maintenant j'étais là en vision. Dieu connaît tout ce que vous avez fait. Croyez-vous maintenant? Un moment. Quelque chose d'autre ne va pas avec cette femme. Je vois le médecin faire autre chose. Oui, il vous a ausculté. Vous souffrez aussi du cœur, c'est la vérité. Et vous avez encore une maladie de la peau. Et cette maladie de la peau se trouve sous vos bras, c'est exact. Et vous avez aussi quelque chose avec votre tête. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes, Madame Fern? C'est exactement cela. Allez à la maison. Jésus-Christ vous a guéri. Vous savez quand cela est arrivé. Ayez foi en Dieu. Chère sœur, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu dans ma vie. Mais Dieu vous connaît. Et si Dieu me révèle pourquoi vous êtes ici, croirez-vous que je suis son serviteur? Vous êtes ici parce que je prie pour vos yeux.
Oh, quelqu'un va juste dire, bien sûr, puisqu'elle porte des lunettes, c'est pourquoi il l'a dit.
Mais vous souffrez également des nerfs. Vous avez les yeux et les nerfs très malades.
Madame Mathéus, vous pouvez aller joyeusement votre chemin. Jésus-Christ vous a guéri. Et cela a ôté tout doute de votre cœur, n'est-ce pas?
Ayez foi en Dieu.
Ne doutez pas.
Maintenant, vous voyez, je deviens si faible. Et l'assemblée commence juste à croire.
Ayez foi. Jésus est ici sur l'estrade.
Et de cette manière que vous connaissez, le même Jésus est là dans l'assemblée.
Le croyez-vous?
Cette femme, juste assise là, avec cette maladie de la peau, croit que le Seigneur va la guérir.
C'est en ordre. Vous pouvez avoir votre guérison.
Et la femme, cette deuxième après vous, a exactement la même maladie de la peau.
Si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, posez vos mains sur la femme assise entre vous.
Elle souffre du diabète et vous serez toutes trois guéries.
Qui ont-elles touché?
Le souverain sacrificateur.
Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus dans ma vie.
Mais ayez foi en Dieu.
Vous voyez, croyez seulement.
Qui que vous soyez, qui l'appelle,
juste vous dites, comment cela arrive-t-il?
J'observe uniquement cette lumière, et lorsque cette lumière s'arrête au-dessus de quelqu'un, je prends garde à la vision qui m'est donnée.
Jésus a dit, je ne fais rien, sinon ce que je vois que le Père fait.
Il voyait dans une vision ce qui devait arriver.
En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.
Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
Et après cela, ils dirent de lui qu'il était un devin.
Qu'est-ce que c'est qu'un devin?
C'est un esprit faux du diable.
Les devins ne prêchent pas l'Évangile, ils n'appellent pas les gens à la repentance, ils ne prient pas pour les malades, etc.
C'est votre foi en Dieu. Il est un Dieu vivant.
Soyez juste recueillis.
Quelqu'un supplie.
Au lieu de vous, je vois une jeune femme.
Je ne sais pas où elle se trouve.
C'est comme si elle s'éloignait de moi, très très loin en arrière.
Je ne peux pas dire combien de rangées,
mais un homme est assis là.
La lumière se tient au-dessus de lui.
Il souffre de la vésicule biliaire, et il prie pour cela.
Il prie aussi pour son beau-père, qui est invalide.
Monsieur, si vous croyez, levez votre main.
Si vous l'admettez, faites signe de votre main.
Vous n'avez point de quart de prière,
mais allez à la maison et trouvez selon ce que vous avez cru dans le nom du Seigneur Jésus.
Qu'a-t-il touché? Qu'a-t-il fait?
Demandez-lui. Il a prié et Dieu l'a entendu.
Si c'est juste, faites signe de votre main.
L'homme qui vient d'être guéri, si vous avez prié, faites signe de votre main.
C'est égal où vous êtes.
Ayez foi en Dieu.
Croyez-vous que je sois ton serviteur?
Vous êtes conscient que quelque chose va arriver.
Et si vous vous trouvez dans la présence de l'homme, vous n'éprouveriez pas cela.
Mais le Saint-Esprit est si proche de vous.
Tout en vous est lié avec moi.
Vous êtes un enfant de Dieu,
vous servez le Seigneur,
et moi aussi je sers le Seigneur.
Et Dieu m'a donné un don pour exprimer envers vous tout son amour pour son œuvre accomplie.
Vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau,
c'est en ordre.
Et vous souffrez d'une nervosité du dernier degré.
Vous avez également de la faiblesse mentale.
Le moment le plus tragique pour vous, c'est le soir.
Vous devenez très faible,
vous ne supportez pas de voir le soleil se coucher, et vous voudriez en détourner votre visage.
Le diable vous a dit que vous alliez perdre la raison.
C'est un menteur.
Vous êtes dans la présence de Christ.
Et il y a ici quelque chose d'autre.
Si vous me croyez être son prophète, son serviteur,
peut-être que des personnes vont broncher si je dis que je suis son prophète. vous avez aussi quelque chose au gros intestin. Ainsi dit le Seigneur. Et vous voudriez aussi que je prie pour vous. Vous avez du poids, trop de poids. Et il y a dans votre cœur un désir particulier. Vous aimeriez devenir mère. Ainsi dit le Seigneur. Allez et recevez-le. Je vous bénis, sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas. Madame, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Croyez-vous que je sois son serviteur? Un moment, vous qui êtes là, vous avez une maladie de femme et vous souffrez des reins. Vous avez persévéré dans la prière pour plusieurs. Vous êtes cette jeune femme que je voyais auparavant dans la vision. Vous auriez dû subir une opération que vous avez renvoyée. Et avant de venir à la réunion, vous avez prié, « Laisse-moi arriver dans la ligne de prière et je serai guéri. » Si c'est exact, levez votre main. Eh bien, allez à la maison car Jésus-Christ vous a guéri. Et croyez-vous que je sois son serviteur? Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Et s'il me révèle pourquoi vous êtes ici et quelle est votre difficulté, l'accepteriez-vous? Maintenant, cela est dans tout l'édifice, partout. Soyez recueillis, ayez la foi, ne doutez pas. Cela vient ici, cette petite femme, là. Elle est très nerveuse, elle prie ainsi, « Oh Dieu, permets qu'il m'appelle. » C'est exact, madame. Vous, avec ce mouchoir en l'air, si vous avez prié ainsi, faites signe de la main. Eh bien, il a entendu votre prière. Et vous, femme, avec le manteau blanc, votre foi vous a guéri, ainsi dit le Seigneur. Je vous exhorte tous à croire. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est un enfant, votre petit-fils. Il n'est pas ici. Il est dans un autre état, en Géorgie. Il a une éruption à la tête et les muscles malades, une maladie de la peau et les muscles. Afin que vous sachiez que je suis le prophète de Dieu, vous vous préparez à aller en terre de mission. Ainsi parle le Seigneur. Allez-y, et Dieu ira avec vous. Croyez de tout votre cœur et recevez ce pourquoi vous avez prié. Avez-vous la foi? Approchez-vous maintenant avec foi. Le mal de votre colonne vertébrale vous a quitté alors que nous étions debout. Allez et soyez remplis de joie, vous êtes aussi déjà guéri. Allez et remerciez le Seigneur. Vous, votre maladie de cœur vous a également quitté. Allez vous aussi votre chemin et réjouissez-vous, vous êtes guéri. Approchez-vous, madame. Vous êtes nerveuse, vous souffrez de l'estomac, vous ne pouvez pas bien manger. Je vous vois à table. Vous repoussez la nourriture et vous ne savez pas que faire. Allez et mangez, car Jésus-Christ vous a guéri. Venez, juste un moment. Quelque chose s'est passé. Juste, soyez recueillis. Que pensez-vous, homme? Croyez-vous? Cet homme assis là, vous étiez profondément en prière pour quelque chose que vous avez cru. Je ne vous connais pas. Autant que je sache, je ne vous ai jamais vu dans ma vie, mais Dieu vous connaît. S'il me révèle pourquoi vous avez prié, me croirez-vous comme étant son prophète, son serviteur? Vous avez des varices et vous voudriez que Dieu les guérisse. Si cela est exact, levez-vous, je vous prie. Et maintenant, allez-vous faire quelque chose pour moi en tant que frère? Allez-vous me reconnaître en tant que le prophète de Dieu? Cessez de fumer. Et Dieu va vous guérir. Allez-vous le faire? Alors levez votre main et promettez de le faire. Et soyez guéri. Votre maladie de cœur vous a quitté pendant que vous vous teniez debout ici. Allez maintenant et remerciez le Seigneur. Faites tous attention. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Un grand pourcentage de l'assemblée souffre comme cette personne ici. Nervosité. Nervosité. Oh, vous tombez en morceaux. Mais Dieu est réalité. Vous qui souffrez de nervosité, levez-vous s'il vous plaît, partout. Comment pourriez-vous les appeler tous ici? Et ils ont tous la foi. Regardez-moi cela.
Levez-vous, je vous prie, tenez-vous ici, je vais vous montrer quelque chose de Dieu. Je vois que vous essayez de descendre quelque chose, d'une marche. Vous marchez de côté, vous avez de l'arthrite, que tous ceux qui souffrent d'arthrite se lèvent, s'il vous plaît. Depuis longtemps déjà, vous souffrez aussi d'une maladie de femme, c'est une enflure, un abcès. Beaucoup de femmes dans un cas semblable sont ici dans l'assemblée, levez-vous s'il vous plaît. Nervosité, presque devant l'écroulement, les personnes malades des nerfs se sont déjà levées. Oh miséricorde! Et ici il y a une ombre obscure, le cancer. Croyez-vous que Dieu veut vous guérir? Je sais, ô frère, c'est juste, que toutes les personnes atteintes de cancer se lèvent, s'il vous plaît. Oh, il me touche déjà, je suis sur le point de m'écrouler. Un moment, s'il vous plaît, Dieu vous connaît tous, j'ai été aussi franc avec vous que je puisse être, et si j'ai trouvé grâce devant vous, croyez-vous que je vous ai dit la vérité et que Dieu la confirme? Si un homme dit quelque chose, c'est une chose. Mais si Dieu n'intervient pas pour cela, alors ce n'est pas la vérité. Mais si Dieu agit, alors croyez donc Dieu. Faites ce que je vous dis de faire. Faites comme je vous le dis, toutes les personnes ici malades. Vous voyez, je ne peux pas tous vous appeler. Ils sont trop nombreux. Mais tous, vous écoutez et tous vous croyez. Vous êtes tous guéris. Si seulement vous le croyez. La guérison est quelque chose que Jésus a fait pour vous depuis plus de 19 siècles. Vous, avec la paralysie infantile et d'autres, ne pensez pas que vous êtes oubliés. Ayez la foi maintenant. Je ne peux pas vous guérir et vous ne pouvez pas rejeter votre vie. Croyez Dieu maintenant tous. Levez-vous, croyez Dieu et acceptez la guérison. Et Dieu va vous donner à tous la santé. Si vous le croyez, levez-vous, recevez-la, levez vos mains et remerciez Dieu pour votre guérison. C'est ici, le Saint-Esprit vient dans tout le bâtiment. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne au diable de quitter cette assemblée ainsi que chaque personne. Soyez tous guéris dans les meurtrissures de Jésus-Christ et dans sa présence. C'est cela que je demande maintenant. Amen. Dieu est réalité. Dieu est réalité. Il vivait avant les 19 siècles qui se sont écoulés. Il vit aujourd'hui. Croyez ce soir le Dieu vivant, le Dieu qui fait quelque chose. Quittez ce lieu sans douter, mais avec la foi qu'il vous a donnée à tous ce dont vous aviez besoin.